Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
Jusqu'au début des années 80, dans les prisons françaises, les parloirs avaient un grillage ou une vitre qui séparait les détenus de leurs proches ou de leurs avocats venus leur rendre visite. Ces espèces d'hygiaphones ont quasiment tous été supprimés quand la gauche est arrivée au pouvoir. Et on a fabriqué des petits box qui permettaient de se toucher, de s'embrasser, d'avoir un peu plus d'intimité. Un tout petit peu seulement, parce qu'il y avait quand même deux portes vitrées de chaque côté du box pour que les surveillants gardent un œil depuis le couloir. Robert Badinter, du temps où il était ministre de la Justice, a essayé de lutter contre cette idée, pourtant bien ancrée dans l'opinion publique, que cela fait partie d'une peine de prison, d'être privé d'intimité, de sexe, d'amour. Mais c'est Elisabeth Guigou, en 1996, qui a mis en place les premières UVF, unités de vie familiale, des petits appartements dans l'enceinte de la prison, où les détenus peuvent retrouver leurs proches quelques heures, parfois jusqu'à trois jours, sans surveillance, comme une parenthèse. Mais le problème, c'est que seulement 51 établissements pénitentiaires en sont équipés aujourd'hui. 51 sur 191. Et même si une trentaine de prisons proposent des salons familiaux, une version low-cost des UVF avec juste une pièce et un clic-clac, l'immense majorité des détenus en France ne peuvent tout simplement pas accéder à ce droit. Voilà. On pourrait dire que ce n'est qu'un élément de plus dans l'état catastrophique des prisons françaises, cette privation d'intimité, mais cela fait réfléchir aux deux histoires que l'on va entendre aujourd'hui. Cela les rend plus fortes et plus mystérieuses encore. Ce sont des histoires de Pénélope moderne, de corps intouchable, de patience et de distance. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre, L'amour derrière les barreaux, par Judith Chétrit.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Alors, c'est le début de l'année 2006. Je reçois un courrier dans la boîte aux lettres, un courrier très officiel avec une Marianne sur l'enveloppe. On me prévient, en fait, que j'ai été tirée au sort sur les listes électorales et que je serais éventuellement amenée à être jurée à la prochaine session d'assises à la Cour de justice de Strasbourg. Début juin commence le premier procès. Donc j'arrive, il doit être 8 heures, le public se met en place, les avocats sont là bien évidemment, et puis vient le tirage au sort. J'ai 24 ans, je me dis qu'à aucun moment je vais pouvoir continuer ce procès, je suis persuadée que je vais être récusée, qu'il n'y a quasiment aucune chance. Et puis finalement, bah si, ça passe. Les accusés, ils sont là depuis un petit moment, puisque du coup, ils ont assisté au tirage au sort. Il y en a deux qui sont arrivés de la maison d'arrêt, les menottes au poignet, et le troisième qui comparaît libre. La première chose qui me vient à l'esprit quand je les vois, en fait, c'est qu'ils sont très jeunes. Je ne les imagine pas plus jeunes que moi, mais disons que j'ai conscience de la solennité de l'endroit et de... quand même de la gravité des faits qui leur sont reprochés. Je vais être confrontée aussi à la réalité d'une population de manière générale que je ne connais pas, que je ne fréquente pas. Je suis issue d'une classe moyenne, j'ai jamais eu vraiment de difficultés dans la vie, avec des parents qui m'ont toujours poussée à faire mieux, à aller plus loin et surtout à faire des études. Je suis allée loin, je suis allée jusqu'en master de lettres. Et là, la greffière commence à lire les documents officiels pour nous expliquer... qu'est-ce qu'on leur reproche, quand ça s'est passé, où ça s'est passé. Et du coup, on a une série de trois braquages dans des petits bureaux de poste de la région. Parmi les trois accusés, il y en a un dont les prises de parole vont beaucoup me toucher. Ismaël, il a un parcours... pas forcément atypique par rapport aux deux autres qui sont à côté de lui. C'est un enfant qui n'a pas grandi dans un foyer normal, qui a même été trimballé d'un coin à l'autre avec beaucoup de violence. Quand je dis violence, c'est pas des violences physiques, c'est pas de l'agression, c'est pas... voilà, mais la violence de deux parents qui refusent de se parler, qui refusent d'avoir une discussion constructive pour le bien de leur enfant. Et en fait, c'est le seul qui va être, entre guillemets, droit dans ses bottes. Il reconnaît les faits. En partie, ils ont des preuves ADN, donc il peut difficilement dire que c'était pas lui. Lui, son discours, il varie pas d'un iota du début jusqu'à la fin. Donc, je sais qu'à un moment ou à un autre, il va falloir prendre une décision sur le quantum de peine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir décider par rapport à ça, sachant que c'est des gens qui sont quand même jeunes. C'est la première fois qu'on les retrouve pris dans les filets de la justice. Ils n'ont pas de casier judiciaire, ils n'ont pas de passé. Et au final, Ismaël prendra 8 ans et les deux autres prendront 5. Voilà. Pendant tout le procès, Ismaël m'a beaucoup touchée. J'avais envie de lui apporter quelque chose, en tout cas de lui proposer mon aide. Au départ, c'est parti comme ça. Et du coup, j'ai eu envie de lui écrire en gardant à l'esprit qu'il faut que je maintienne quand même une certaine distance, qu'il ne faut pas que je m'immisce dans son espace personnel, surtout qu'objectivement, il n'est pas très large, son espace personnel. Donc j'essaye de garder les formes, je vous vois, voilà. Alors je lui dis qui je suis, je lui dis à quelle place j'étais assise. Et je me décris aussi physiquement pour qu'éventuellement il puisse remettre un visage sur mon nom. Alors en fait, je ne sais pas trop si j'ai le droit de lui écrire, mais le lundi matin, un nouveau procès commence et du coup je me retrouve avec deux autres juges assesseurs, dont une, en l'occurrence, qui est juge d'application des peines, et avec laquelle je vais très très bien m'entendre, et je vais finir par lui expliquer ce qui se passe. Et elle me répondra que je peux le faire, que ça pose pas de souci, et que je dois surtout penser, en fait, à nous protéger. Et elle insiste sur le « nous », c'est-à-dire que ça peut très bien être moi, en tant que jury, pourrait avoir envie de se venger, par exemple, comme ça pourrait être dans l'autre sens, de ne pas lui faire penser des choses qu'il ne devrait pas penser pour ne pas lui faire plus de mal, en fait. Du coup, le mardi midi, ma lettre est dans la boîte aux lettres. Très peu de temps après, j'ai une réponse. Il est plutôt enthousiaste. Il ne voit pas du tout qui je suis. Ma description ne l'a pas aidé. Et il est tout à fait d'accord pour qu'on continue à correspondre. Vous venez de lire tous les deux L'Alchimiste de Coelho. Et sinon, on parlait beaucoup de littérature, parce qu'il a beaucoup lu en prison. Quelques mois plus tard, je pense que c'est... De mémoire, c'était début novembre. Il m'envoie une photo, en pied. C'est un geste quand même relativement intime, d'envoyer une photo de soi. On fait pas ça avec n'importe qui. Avec un ami, peut-être, mais bon... Il se trouve que petit à petit, je me suis rendu compte qu'il était plus pour moi qu'un ami. Et je me dis, c'est de la folie. Je vais dire à mon frère dans une conversation privée, je vais dire, en fait, je crois que je suis amoureuse de mon prisonnier. Et ce qui est bien aussi, c'est que mon frère et ma sœur, ils sont assez cash, donc ils vont tout de suite me mettre face à mes propres contradictions en me disant, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Est-ce que tu te rends compte de l'avenir que tu t'imagines? Enfin, et moi-même, je me dis, oui, effectivement, ils ont raison. C'est des angoisses légitimes, mais c'est lui que j'aime, en fait. Concrètement, c'est une relation qui ne dit pas son nom. Pour moi, c'est à ce moment-là, c'est évident. Depuis son envoi de cette photo, en fait, pour moi, c'est ça. Mais je finis par craquer et au mois de décembre, je lui envoie un courrier où je lui dis tout simplement que je tourne autour du pot depuis trop longtemps et qu'en fait, je me suis bien rendu compte que j'étais amoureuse de lui. Finalement, je vais recevoir un courrier qui aura tardé, mais qui arrive quand même. Et il ne me dit pas « je t'aime », mais s'il vous plaît, il me dit « j'aimerais bien te le dire, mais là, j'en suis pas capable. » Je vais quand même réussir à avoir ce fameux permis de visite le 15 mars. Et le 17, j'ai mon premier rendez-vous au parloir. Le premier parloir, il est un peu délicat, un peu... Voilà, on sait pas trop, on est ensemble, on n'est pas intime, mais on est ensemble quand même, je sais pas... C'était difficile. Et du coup, au cours de l'année 2007-2008, il aura plusieurs permissions de sortir qui nous permettent effectivement de commencer à voir comment c'est dehors à deux. C'est des super moments, mais en même temps, c'est extrêmement cruel parce que même si, en fait, je fais plein de choses, je travaille, enfin, j'ai plein d'activités, je vois des amis, voilà, mais il manque quelque chose. J'ai eu de la chance, ça m'a pas coupé de ma famille. Mes parents, ils ont un peu été estomaqués quand je leur ai dit la vérité, parce que pendant très longtemps, j'allais au parloir en leur disant que j'allais étudier à la bibliothèque. Puis au bout d'un moment, ça a été plus tenable. Il fallait que je leur dise, d'autant que clairement, lui et moi, on était sur la même longueur d'onde et que ça allait finir par arriver. Donc quand il sort, ben oui, il a 30 ans et moi, du coup, j'en ai 26. Encore une fois, c'est une évidence. Le jour de sa sortie, sans qu'on en ait discuté, il a donné mon adresse et il est venu vivre avec moi. Et on s'est mariés très très vite. À peine un mois après sa sortie, on était mariés. Il trouve du travail sans trop de difficultés. Déjà à ce moment-là, on voit qu'il a envie d'avancer, en fait, de faire autre chose, de changer de perspective. Et entre-temps, on aura eu des enfants, puisqu'on a eu des jumeaux en 2010. On est tout le temps restés ensemble. On a traversé d'autres épreuves ensemble, parce qu'il y a eu deux courtes réincarcérations. Voilà, il s'est laissé entraîner dans une petite affaire de stupéfiants. Voilà, ça a été une courte peine, c'était pas simple, surtout avec des enfants. Bien qu'on m'ait beaucoup interrogé à ce sujet, mais pourquoi tu restes avec lui, pourquoi si, pourquoi ça. Là encore, c'est la seule et unique réponse que je peux faire, c'est mais je l'aime en fait. Et même quand il était en détention, notre relation, elle est vraiment solide parce qu'elle va dans les deux sens. C'est pas juste lui qui s'appuie sur moi, c'est moi aussi je m'appuie sur lui.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Sigrid, je viens d'avoir 39 ans et ça fait 3 ans que j'habite à Jacksonville en Floride, donc aux États-Unis. Je suis française et j'ai grandi en France et vers 14-15 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la peine de mort parce que ma mère avait regardé un reportage et ça a bouleversé ma vie parce que ça m'a complètement choquée en fait que ça puisse encore exister et surtout dans un pays comme les États-Unis. Je suis née en 1981, donc l'année où ça a été aboli en France. Et du coup, je me rappelle que c'était... Après mon bac, j'ai eu un ordinateur et c'était les débuts d'Internet. Donc j'ai fait des recherches et j'ai découvert des chroniques qui étaient écrites par un détenu. Lui, il est en death row, donc dans le couloir de la mort en Californie. Et j'ai fini par envoyer ma première lettre et il m'a répondu. Il disait qu'il avait des correspondants un peu partout, que c'était intéressant d'avoir une française, que mon anglais était ok. Et en fait, au début, ça m'intéressait pas d'écrire juste à des détenus. Je voulais écrire à des condamnés. Je voulais avoir l'impression de faire quelque chose contre la peine de mort. C'était mon but premier. Et je racontais juste ma vie. C'est bête, hein, mais juste ma vie de tous les jours. Je vais à l'école ou mon copain, comment ça se passe, etc. Parce que bon, ce qui les intéresse aussi, c'est via nous, ils ont une fenêtre sur le monde. Quand je commence à lui écrire, tout ce que je sais, c'est qu'il est dans le couloir de la mort en Californie depuis les années 80. Donc, quasi toute ma vie, en fait. Et donc, lui, il a une quarantaine d'années et moi, j'ai 18-19 ans. Et à l'époque, comme je disais, c'était les tout débuts d'Internet. Il y avait ce site où il avait ses chroniques, mais j'avais aucune idée de ce qu'il avait fait, en fait. Tout simplement, il m'a dit « Oui, la seule chose qui, de toute façon, peut t'amener au couloir de la mort, c'est un meurtre. » Et il fait « Mais je peux pas en parler parce que j'ai toujours des appels en cours. » On s'est écrit pendant plusieurs années, comme ça, régulièrement. Et puis, un jour, je sais pas pourquoi, un soir, je me suis dit « Tiens, maintenant, Internet, c'est quand même vachement plus développé qu'avant. » Si je tapais son nom dans Google pour voir si je trouve quelque chose. Et là, je découvre qu'il a une page Wikipédia et j'apprends de quoi il est accusé. Donc, c'est de plusieurs viols et meurtres sur des femmes, donc. Ça m'a beaucoup remué. Je me suis pas rendu compte tout de suite, mais c'est quand j'ai commencé à faire des cauchemars. En gros, je rêvais qu'il sortait, qu'il me retrouvait, et puis qu'il me faisait ce qu'il avait fait aux autres femmes. Donc là, j'ai vu que ça me travaillait vraiment. Et donc, je me suis posé la question. Je me dis, est-ce que j'arrête de lui écrire? Et là, je me suis dit, ben non, ça fait 7 ans, il t'a jamais rien fait de mal, et il ne sortira jamais, a priori. Et en fait, je m'étais engagée à lui écrire, et je m'étais engagée à lui écrire jusqu'à ce qu'il ne veuille plus, en fait. C'est lui qui décide. Et c'est vrai qu'il y a un peu rien de pire que vous pouvez faire à quelqu'un qui est en prison que d'arrêter de leur écrire du jour au lendemain. Ils ont aucun moyen de savoir ce qui vous est arrivé. Et donc je voulais pas du tout faire ça. Et j'obtiens une bourse pour faire ma troisième année à Copenhague, au Danemark. Du coup, je me suis retrouvée avec énormément de temps libre et j'ai décidé que c'était le bon moment pour écrire à quelqu'un d'autre, peut-être plus proche de mon âge, pour voir si on avait plus de choses à se dire. Je vais sur un site où les détenus postent des annonces, donc en fait c'est un site internet où vous pouvez faire une recherche, vous mettez vos propres critères. Alors il y a des critères hyper poussés comme quel signe astrologique, la taille, le poids, la couleur des yeux. Il y a l'âge bien sûr, vous pouvez choisir quel état et vous pouvez aussi préciser si vous voulez par exemple quelqu'un qui ne sortira jamais, donc qui est condamné à vie, ou quelqu'un qui est condamné à mort. Mes critères c'était quelqu'un entre 25 et 35 ans et dans le couloir de la mort. Et là, il y a un seul profil qui s'affiche, c'est celui d'Alan, 25 ans, dans le couloir de la mort en Floride. En résultat de recherche, on voit juste une miniature photo et puis le début du texte. Et le début du texte, il se décrivait physiquement. Donc bah moi, je m'en fichais un peu, quoi. Donc j'étais pas forcément super intéressée, mais à cause de son âge, j'ai ouvert parce que 25 ans et dans le couloir de la mort, ça m'a perturbée. Je me suis dit, comment on fait pour se retrouver là à 25 ans? Sur son profil, je peux voir qu'il est condamné pour un cambriolage et un meurtre. Et c'est tout ce que je vois à ce moment-là. Et donc lui, il avait des goûts un peu particuliers. Il était intéressé par la philosophie, la théologie, les sciences. Il disait aussi qu'il aimait dessiner les cultures et qu'il était prêt à écrire à tout le monde, peu importe le genre, l'orientation sexuelle, la religion, etc. Je lui écris, je lui explique un peu d'où je viens, donc que je suis française, pourquoi là j'habite à Copenhague, qu'est-ce que j'aime ici, je décris ma vie, donc mes cours, la fac, j'explique un peu ma situation familiale. À ce moment-là, j'ai perdu mon père du cancer, ça fait juste un an et quelques mois à ce moment-là. Et quand il me répond, il me parle justement que sa mère aussi a eu un cancer, mais que maintenant elle va bien. Et on rentre tout de suite dans des sujets sérieux. Et moi, je suis hyper flippée de la mort. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a toujours, j'ai pas envie de dire attirée, mais bon, j'ai pas d'autres mots, vers la peine de mort. C'est parce que moi qui ai tellement peur de la mort, je peux pas imaginer pire situation que de savoir qu'on est enfermé en attendant qu'on nous tue, puis qu'on va nous donner une date pour ça, et qu'il va y avoir une espèce de cérémonie, etc. Et on discute beaucoup de ça, et d'autres choses aussi, quels sont ses films préférés, quel genre de musique il écoute, et moi, et puis on compare, et puis les langues qu'on parle. Bizarrement, c'est aussi une période où je suis très heureuse, parce que je recommence un peu ma vie à zéro, et du coup là j'ai quelqu'un à qui j'ai l'occasion de dire tout sur moi, et de lui dire vraiment qui je suis, du début à maintenant, quoi. On s'écrit pendant quelques mois, on devient assez proche en fait. Avant, j'écrivais, il me répondait, j'écrivais. Et puis très vite, en fait, on est passé à j'attends plus de réponses, j'écris. Un jour, je reçois une lettre qui fait 30 pages. et dans laquelle il me dit qu'il a en gros un coup de cœur pour moi et il m'envoie un formulaire pour demander l'autorisation de visiter. Moi, à ce moment-là, même si je sais que je l'aime bien, j'envisage pas une seconde qu'il se passe quoi que ce soit entre nous. Jamais. En plus de ça, moi, j'ai jamais voyagé aux États-Unis. Je n'ai pas l'intention d'aller aux États-Unis. Alors là, je me suis dit, bonjour l'ironie, si je voyage aussi loin, pour la première fois, c'est pour aller dans le couloir de la mort, alors que je veux pas aller dans les pays qui ont la peine de mort. C'est quand même fou. Donc, j'essaie un peu de me questionner sur ce qui se passe, sur moi d'abord, en me disant, mais pourquoi tu tiens tellement à cette personne ? J'ai pris en fait tous les clichés qu'on a sur les femmes qui sont attirées par les gens en prison, ou qui se mettent en couple avec des gens en prison plutôt. Et il y a des trucs comme ça qui reviennent tout le temps, du genre, c'est des femmes qui ont été abusées, c'est des femmes qui ont peur des hommes, c'est des femmes qui ont besoin de contrôle, donc s'il est en prison, je sais où il est à tout moment, etc. Et puis forcément, je me pose aussi, autant je me suis posé des questions sur moi, autant je me pose des questions sur lui. Est-ce qu'il dit le même genre de choses à 15 filles différentes, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui dise oui ? Et je lui dis que ben, j'aimerais bien le rencontrer, mais que ça me fait quand même un peu peur, et puis qu'il me faut un peu le temps de la réflexion. Et là, il m'a plus écrit. 6 semaines sans rien, pour moi. Et pendant ces 6 semaines, je suis déprimée à un point que je ne me connais pas, en fait. Pleurer pour un mec que j'ai même jamais rencontré. Je commence à me dire que bah, y a peut-être quelque chose d'un peu plus profond que de l'amitié. Et un jour, j'ai reconnu son écriture, il y avait une lettre. Et les premiers mots, c'était... bon, c'était en anglais, mais c'était « Je t'aime ». Il disait que... au final, il avait tiré la conclusion qu'il voulait tout simplement de moi dans sa vie et que si c'était en tant qu'ami, bah, ça lui irait très bien. Donc j'étais un peu perdue. Et puis au final, je lui ai dit qu'il fallait qu'on se rencontre pour vraiment voir si c'était dans notre tête ou s'il y avait vraiment quelque chose. Alors j'arrive là-bas 2 semaines avant Noël. Sa mère vient me chercher à l'aéroport. Elle m'explique un peu comment se passent les visites, en fait, comment on va me fouiller, ce qu'on va me demander, les questions qu'on va me poser, le détecteur de métal, etc. Et en fait, quand on arrive, on vous attribue une table. Et en fait, il y a une porte, donc j'étais juste en face de cette porte, qui donne sur là où ils sont fouillés et où à l'époque, ils devaient se changer. Enlever les vêtements qu'ils avaient dans leur cellule pour mettre des vêtements spécialement pour la visite. Du coup, il me semble qu'il m'a embrassé très rapidement sur la bouche, mais il m'a surtout serré dans ses bras. Il m'avait prévenu qu'il ferait ça. Il s'est assis en face de moi et il a dit quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'il avait un gros accent du sud et j'ai pas compris. On a passé des heures à se regarder dans les yeux. Et c'est à partir de la deuxième visite où là on a pu commencer à avoir des vraies discussions. Une visite c'est 6 heures. Et c'est vrai qu'en fait on discute de tout sauf de notre relation. Moi je suis hyper... j'ai les pieds sur terre quoi. Et je me dis il y a la distance, il y a la prison, puis en plus les couloirs de la mort. Pour lui, avoir quelqu'un dehors c'est tout bonus, mais ça change rien à sa situation. Alors que pour la personne dehors... ça change tout. Je me suis dit, hey, j'ai 30 ans, j'ai pas envie de faire une croix sur le sexe, donc moi je vais être avec toi, je t'aime, mais je ne sais pas si je vais pouvoir tenir 10 ans comme ça. Et du coup, les deux dernières visites, on a discuté un peu de tout ça. Et quand je suis rentrée au Danemark, on était officiellement ensemble, tous les deux amoureux, et très pressés de se revoir. Avant d'y aller, par contre, j'ai fait un peu plus de recherches sur son affaire. Et quand on est arrivé aux États-Unis, je savais qu'il pouvait pas en parler, je comptais pas lui demander quoi que ce soit. Mais il faisait des petites insinuations ici ou là, qu'il fallait pas que je croie ce que j'avais pu avoir lu. Mais c'est vrai qu'il y avait ça aussi, parce que le fait de se mettre avec quelqu'un qui est coupable... pour que ce soit une condamnation à mort, comme je dis, il faut qu'il y ait des facteurs aggravants. On sait qu'on risque, il y a un gros risque d'être rejeté par la société derrière. Donc c'était difficile, mais en même temps, je lui faisais confiance. Je savais aussi qu'un jour, je saurais toute la vérité sur ce qui s'était passé. Juste pas aujourd'hui. Parce que je savais que si je posais la question, il me répondrait en fait. Je voulais juste pas poser la question parce que je voulais pas qu'un jour on m'appelle pour témoigner contre lui. Et je suis rentrée en France et on est resté des mois sans pouvoir se voir parce que moi, il fallait que je remette des sous de côté. Donc c'est vrai qu'on s'est assez rapidement posé la question de moi aller vivre aux États-Unis. Et en fait, j'ai engagé un avocat et on s'est rendu compte que le mieux dans notre situation, c'était de faire un visa épouse. Donc ça a un petit peu accéléré aussi les choses, parce qu'il fallait qu'on se marie d'abord avant que je puisse entamer les démarches pour pouvoir venir vivre ici. Le mariage, c'est ce qu'on peut attendre d'un mariage en prison, c'est-à-dire que lui, il porte son uniforme de prisonnier. Moi, j'avais pas le droit de porter une robe de mariée ou d'avoir des fleurs ou ce genre de choses, ou même des épingles dans les cheveux, quoi. Mais il a pu avoir sa mère, sa nièce, sa belle-sœur, son beau-père, et moi, j'ai eu ma mère et ma meilleure amie, et son frère aussi qui était là. Et donc, ça fait qu'on avait 7 invités. On a fait venir une notaire de l'extérieur, mais qui doit être approuvée d'abord par la prison. En fait, on a écrit nos propres vœux, mais on voulait aussi qu'elle ne prononce pas jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais qu'elle dise plutôt pour toujours. C'était beau, et même il y a même des gardes avec qui ils ne s'entendaient pas forcément très bien, qui lui ont dit après que c'était beau la cérémonie qu'on avait eue, et puis ça se voit quoi, ça se voyait qu'on s'aime, quoi. Donc en juillet 2017, je me suis installée aux États-Unis, d'abord chez sa mère et son beau-père pendant quelques temps. J'ai trouvé un emploi après un mois. Moi à ce moment-là, j'ai 36 ans. Lui, je sais qu'il a toujours voulu avoir des enfants, moi pas vraiment. Mais c'est vrai qu'en fait, ça commence à me travailler et donc on a décidé d'essayer. Et donc on a eu un fils en janvier 2020. Il s'appelle Søren, avec le O barré comme au Danemark. You better run, run from hell. You better run, run, run from hell. You better hide, hide, hide from them.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, un reportage de Judith Chétrit, réalisé par Clémence Grosse, mixé par Delphine Baudet. Merci à Sigrid, Hélène et François Barrère. Notre attaché de production, c'est Mélissa Foust et notre stagiaire, François Bréus. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission et toutes les autres sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.